Salut à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Damon Retry qui a pris son temps pour sortir, on peut le dire. Il se trouve que l'émission a pas mal évolué depuis la dernière émission où elle avait déjà pas mal évolué. On va donc revenir sur tous ces changements dans quelques instants en compagnie de Marie.
Bonsoir.
De Guillaume.
Bonsoir.
C'est qui lui?
Eh oui, vous venez de l'entendre, vous pensiez qu'il était parti, mais non, tel un personnage secondaire dont on ne saurait finalement se passer. Benjamin Dimanche est encore là et il le sera également la fois prochaine et celle d'après puisqu'il rejoint l'équipe de Damon Retry.
Coucou.
Bienvenue.
Merci de m'accueillir, vous êtes fous, hein, vous le savez. Hein.
Ouais, ouais. Comme quoi, croyant en vos rêves, parfois, ils se réalisent. mais non, ça me fait très plaisir que tu rejoignes l'équipe.
Bah, moi aussi. Voilà,
c'est super.
Sinon, j'aurais pas accepté.
Et pour te faire honneur, le sujet que nous allons traiter dans ce numéro est une pratique que tu maîtrises, celle de la veille vidéoludique, ou comment se tenir au courant de l'actualité du jeu vidéo. Mais nous verrons cela après quelques news.
Happy fucking New Year.
Bonne année.
Bonne année.
Et oui, car la dernière émission que nous avons enregistrée, c'était pour la rentrée scolaire, et là nous faisons pour la rentrée civile, c'est ça,
c'est ça.
La nouvelle année.
La nouvelle année. Il s'est écoulé pas mal de temps, effectivement. Du côté des news, du coup, quoi de neuf depuis la dernière émission? Premier changement, Ben rejoint l'émission, on l'a évoqué. Deuxième changement, nous enregistrons dans son salon maintenant. À partir de maintenant, nous pouvons enregistrer l'émission depuis chez nous, puisque grâce à Radio Kawa et aux Patriotes, aux dons des Patriotes, nous avons pu obtenir du matériel pour enregistrer depuis chez nous, ce qui, pour cette émission, ne va pas vous changer grand-chose pour les prochaines. Il est possible que ça ait un impact. On verra ça quand on y sera. Troisième changement, on a revu un petit peu les sujets de l'émission, puisque ayant intégré Radio Kawa, qui contient pas mal d'émissions de jeux vidéo, on s'est dit que ça serait quand même dommage de se répéter entre les émissions, donc on a décidé de plus axer Damon Retry sur des sujets de jeunes développeurs qui concernent des problématiques de jeunes développeurs ou de personnes qui cherchent à entrer dans l'industrie du jeu vidéo, donc sur les problématiques du type comment se préparer à une game jam.
Comme dans la première saison de Damon Retry.
Voilà.
Et avec la saison 2, on a inauguré avec la première émission dédiée à Marie, avec le développement de Montpellier Discovery. Mm. Oui, ouais. Dédié à Marie, carrément. Je vous jure. Ensuite, Vincent.
Et du coup, pour cette émission-ci, nous allons discuter de la veille vidéoludique, comme on l'a évoqué plus tôt. Donc, dans l'objectif de vous faire part de problématiques vraiment que l'on rencontre quand on cherche à rentrer dans l'industrie du jeu vidéo, comment bien s'y préparer, ce genre de choses. Et donc, on laissera des sujets du type comment faire des jeux vidéo en pixel art, comme on l'a fait dans la première saison, et des émissions comme The Game Makers qui font très bien ce genre de sujet. Voilà. Voilà pour ce qu'il y a de nouveau depuis la dernière émission concernant Damon Retry. Et vous, mes chers chroniqueurs, quoi de neuf depuis la dernière émission?
Donc là, toujours sur mon projet de développement, je vais bientôt lancer une chaîne YouTube qui sera là pour en fait parler d'émissions, de plateformeurs en général, où je vais faire de la critique, de la découverte de jeux, des let's play qui sont toujours dans le thème du platformer, pour justement cibler des gens qui s'intéressent à ce domaine là et ensuite pouvoir leur parler plus facilement du jeu que je suis en train de développer, pour au final avoir une audience qui est ciblée, abonnée à une chaîne particulière. Pour l'instant, il n'y a pas de nom de chaîne, j'ai pas encore défini ça. Je me donne une deadline que j'annonce publiquement aujourd'hui. Au 10 mars, si ma chaîne n'est pas publiée, vous pouvez venir me taper sur les doigts. Donc vous demandez sur un commentaire. Bon, Guy, elle est où ta chaîne YouTube? Et j'y répondrai. Mm. Je me donne un objectif de 1000 abonnés en 3 mois, à partir du moment où j'ai lancé la chaîne YouTube. Parce que contrairement à l'étudiant JV, je compte être productif.
c'est un coup bas.
Très coup bas, mais au moins ça me donne des objectifs que je dis publiquement. Mm-hmm. Donc on va essayer de s'y tenir.
Ok. En tout cas, pour revenir sur ton projet, oui, effectivement, c'est une bonne idée de mettre en avant la création de ton jeu et de sujets relatifs à la création de ton jeu en le faisant via YouTube. C'est un moyen comme un autre, en fait, de développer une audience, de faire de la communication, et en plus, ça permet, entre guillemets, d'éduquer les gens sur ce que c'est que la création de jeux vidéo. Donc, moi, je trouve que c'est un projet plutôt cool. Bon courage pour ce projet-là.
Merci.
Ben.
Alors, depuis la dernière émission, ça commence à remonter. Alors, il y a eu beaucoup de choses, hein, mais Bah, classiquement, on continue le développement de notre projet, nom de code Ginger Boy pour l'instant. On travaille avec un ancien un développeur de Ubisoft Montpellier qui a sorti un jeu indépendant de plateforme il y a très peu de temps. Je pense que vous le connaissez bien un peu ici. C'est un truc avec de la peinture là. Voilà. Et on travaille ensemble sur ça, c'est super intéressant, c'est super challenging parce qu'on part de rien, en tout cas de très peu. On essaie d'aboutir sur un proto et on vise le Stunfest comme une première démo publique du prototype. Donc le Stunfest
d'ici combien de temps?
D'ici 4 mois, on va dire. Voilà. À peu près.
Ambitieux, mais réalisable, non?
Réalisable pour avoir un premier prototype d'ordre voilà, de première manipulation du jeu, peut-être une première boucle de gameplay, savoir si ça plaît ou si ça plaît pas, et savoir si ça plaît, si on continue, si, si ça plaît pas, soit on repasse à l'étape prototypage, voilà, soit on retourne à l'étape, on retourne chacun chez nos mères, comme on dit, et puis on va reparendre le concept de zéro ou reprendre un nouveau concept complètement, quoi. Donc voilà, ce moment, ça... c'est ça. Donc ça occupe pas mal mes journées en ce moment, à réfléchir à tout ça, et on verra ce que ça donne.
Eh bien, pendant que tu me rends le micro, parce que c'est une émission que nous faisons de micro, pour le coup, le setup n'est pas encore configuré de façon optimale, mais ça le sera certainement pour la prochaine émission. En tout cas, très curieux de jouer à ce nouveau projet également, d'autant plus que je sais, s'il y en a qui n'ont pas deviné avec qui Ben travaillait, en tout cas, moi, ça m'hype plutôt.
Je pense que la scène montpelliéraine se doute un peu de qui c'est. Mm. D'ailleurs, t'as pas des petites infos à nous donner sur quel type de jeu ça va être, ou ce genre de choses? Des petites exclus pour Devin Retry?
Ça va être compliqué après de décrire parce qu'on est vraiment en phase. C'est vraiment, on est dans le bac à sable. On itère beaucoup et on va beaucoup changer de concept. Donc il n'y a pas très longtemps, c'était un platformer 3D avec une sauce beat'em all, mais pour l'instant, c'est plus un beat'em all avec un peu de platformer.
D'accord.
Mais c'est sûr que pour l'instant, ce sera un jeu qui sera plutôt en 3D.
Okay.
Avec un ou plusieurs personnages, on ne sait pas encore, on en discute parce que ça implique beaucoup de choses et beaucoup de contraintes en termes de design et de production. A priori, platformer 3D plutôt orienté beat'em all avec un twist sur la physique pour l'instant. Mais c'est pour l'instant, peut-être que d'ici 4 mois ça aura complètement changé. Le but étant là de prototyper des boucles de gameplay assez rapidement pour voir si c'est viable.
Ok, c'est génial. Une exclue Devin Retry.
Ouais, une exclue, c'est annoncé nulle part et tout. Ouais, c'est un peu mis publiquement sur nos Twitter, mais bon, après, ça va, c'est pas trop. On communique pas énormément dessus pour l'instant. Donc voilà. Ça va être mon boulot dans peu de temps de changer tout ça.
Merci pour toutes ces infos. Quant à moi, je vais être assez bref. J'ai assisté à trois conférences, ateliers j'ai assisté à plus que ça, mais il y en a trois sur lesquels je veux revenir avec vous, auxquels j'ai assisté depuis la dernière émission. La première, c'est la conférence Dev sous influenceur de Mylène Nourdel. Je vais d'autant moins m'épancher sur celle-ci puisque vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de Pushstart, mais c'est une conférence du coup dans laquelle Mylène s'est intéressée à la technique marketing qui revient à faire appel à un influenceur pour promouvoir son jeu. Elle y revient sur la façon dont on approche du coup ces créateurs de contenu pour obtenir d'eux qu'ils acceptent de parler de votre jeu, et également sur les résultats aléatoires que vous pouvez obtenir. Enfin, c'est assez pertinent. C'est une conférence qu'elle va reproduire à la Nordic Game en Suède fin mai, donc preuve de son succès. Et si vous ne pouvez pas y assister là-bas, vous pouvez retrouver cette conférence du coup sur la chaîne YouTube de Pushstart. Deuxième événement auquel j'ai assisté, l'atelier sur les méthodes agiles et plus particulièrement sur le Scrum. Alors la méthode agile, c'est une méthode de production qui est utilisée dans pas mal de studios de développement. Ça permet...
En fait, on fait comme Ben est en train de faire avec son projet.
C'est ça.
On teste un gameplay qu'on fait tester à un public. On regarde sa réaction, et si la réaction est bonne, et ben on continue dans ce sens-là. Et c'est comme dans l'esprit startup, si on voit qu'il y a une difficulté, on fait ce qu'on appelle un pivot, et donc on change le gameplay pour avoir une nouvelle facette et orienter le jeu d'une, d'une manière qui ira toucher un public, en tout cas assez conséquent pour que ce soit viable.
Effectivement, ouais, c'est de façon régulière, on fait tester du coup son proto à un public et on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et c'était assez impressionnant du coup dans cet atelier, on s'est rendu compte sur des petits exercices déconnectés du jeu vidéo, puisqu'on c'était pas l'atelier n'était pas sur la création d'un jeu, mais par exemple on trouvait la façon la plus optimale de se faire passer des objets, les mettre dans un sac en équipe, et en fait sur 5 itérations on a amélioré notre score. Au début, en une minute, on arrivait à se faire passer genre 6 objets avant de les rentrer dans un sac. À bout de la 5e itération, on avait multiplié par 5, quelque chose comme ça, ce score. Puisqu'en réfléchissant sur ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, on a réussi à améliorer notre processus. Et voilà, donc je vous conseille de vous renseigner sur les méthodes agiles et sur le Scrum si vous ne connaissez pas. Et notamment, vous pouvez aller voir la chaîne YouTube Scrum Life, qui est une chaîne française, contrairement à ce que laisse supposer son nom. Et voilà, il y a plein du coup d'informations, de tips, d'astuces sur la méthode agile dite Scrum. Enfin, le troisième événement auquel j'ai assisté, c'est une table ronde organisée par Office Hours sur le titre était « S'associer pour le meilleur ou pour le pire ». L'une des choses que j'ai retenues de cette table ronde, c'est que, en fait, si vous voulez vous lancer dans un projet entrepreneurial avec des associés, il faut, c'était le conseil unanime de la table ronde, il faut que vous ayez les mêmes vues sur le projet, les mêmes...
Les mêmes objectifs.
Les mêmes objectifs. Par exemple, est-ce que c'est un objectif financier ? Est-ce que c'est un objectif de qualité ? Est-ce que c'est un objectif... Enfin, il faut avoir la même motivation, le même objectif, et que ce soit partagé par tous les associés. Autrement, à un moment donné, vous entre... Voilà, Ben m'a perturbé. Ouais, merci. C'est quelque chose que j'ai eu l'occasion d'expérimenter par moi-même, puisque sur un précédent projet que j'avais fait, on était 4 à l'initiative du projet, et il se trouve qu'on était 2 personnes à avoir certains objectifs en tête et les 2 autres des objectifs différents, et ça a marché ensemble jusqu'à ce qu'à un moment donné, il faille prendre des décisions sur la suite du projet, et évidemment personne n'était d'accord, enfin en tout cas les 2 binômes n'étaient pas d'accord, et le projet a dû s'arrêter là, puisque en plus on était c'était une hiérarchie horizontale, donc tout le monde, personne n'était au-dessus de personne, donc voilà. Voilà.
Si vous aimez le jeu vidéo et les conversations respectueuses, l'Atelier n'est pas un podcast pour vous. Chaque mois, CAF, celui des magazines comme Joystick, J, celui des magazines qui ont vite disparu comme Gameplay RPG, Fox, celui qui n'a jamais écrit dans aucun magazine, mais aussi Alex le serveur et Inks s'emparent d'un sujet autour du jeu vidéo et s'y mettent le feu. Éditeur, confrère, auditeur, tout y passe. Dans l'Atelier, il y a tous les potes de Fox, les insultes de J, les pages Wikipédia de CAF, le corps d'Alex le serveur et le désespoir de Inks. Retrouvez l'Atelier une fois par mois sur radiokawak.com.
Et c'est parti du coup pour le sujet de ce soir, la veille vidéoludique. Alors du coup, quelles ressources consulter? Faut-il se tenir au courant de tout? Comment pratiquer la veille? Mais avant cela, Guillain, est-ce que tu peux nous dire pourquoi pratiquer la veille vidéoludique?
Alors je vais vous faire une intro quand même vite fait, parce que en soi, si tu as envie de te renseigner sur un sujet, c'est un peu à toi de choisir si tu le vas le faire ou non. Mais en gros, pour moi, c'est la veille vidéoludique, tu as des objectifs dans ça. C'est tu peux avoir plusieurs objectifs, comme trouver des nouveaux process de création, des attentes sur certains jeux en particulier. Du coup, tu veux regarder ce qui se dit sur tel jeu qui va bientôt sortir. Tu peux regarder tous les jeux différents qui sortent pour analyser, pour voir s'il y a des nouvelles features de gameplay, des nouveaux jeux qui sortent, qui révolutionnent le marché. Ou au contraire, simplement regarder des tendances qui se dégagent, voir qu'en ce moment, c'est les Battle Royale qui se dégagent ou ce genre de choses. Et ça permet de possiblement essayer de se placer quand tu développes un jeu, notamment de trouver tel ou tel domaine. Après, il y a différents types de veille, mais ça, je pense qu'on en parlera un peu plus tard dans l'émission.
Il y a de la veille sur les jeux vidéo, mais il y a aussi de la veille sur les nouvelles technologies. Quand on commence à développer un jeu, c'est important de se renseigner sur ce qui marche actuellement. Je prends l'exemple de la réalité augmentée, forcément. Mais c'est bien d'avoir tous les logiciels en tête qui peuvent servir à la réalité augmentée, par exemple, ou sur la réalité virtuelle, vu que c'est en constante évolution. Tais-toi. Ferme-la.
Non, c'est bon. Je vois que tu me tends le micro, Marie, parce que oui, dans cette émission, on partage encore les micros.
Vous n'êtes pas les seuls ce coup-ci.
Oui, mais il faut savoir que Marie et moi, il faudrait qu'on ait une moitié de micro chacun, et qu'à chaque fois, on se mette tous les deux pour fusionner un micro, et voilà, c'est un peu comme avoir les deux parties d'une pièce. Bon, bref, là, je sais pas où je vais. Non, mais simplement, voilà, elle parle de réalité augmentée, réalité virtuelle. Après, tu te parlais des outils, ça veut se renseigner sur les outils, mais aussi les outils de production. C'est les moteurs de jeu, notamment. Toutes les nouveautés qu'il peut y avoir sur Unreal. Je sais qu'il y a un moteur de jeu open source qui se développe en ce moment, c'est Godot. Non, mais sérieusement, tu rigoles. Je sais qu'il y a quelques mois, c'était l'horreur, mais il commence à avoir vraiment pas mal de plugins. Et avec. Va concurrencer Unity, quoi.
Ce logiciel, il me fait rire parce qu'à chaque game jam, t'as les mecs qui font viens, on développe sur Godot. Et à chaque fois, les mecs se foirent. Du coup, Godot, c'est un petit running gag pour moi.
Ouais, mais ça se trouve, bientôt, c'est le futur Unity.
Calme-toi!
Ah, on sait pas, peut-être. Tu vois, c'est important de faire de la veille pour voir comment ça évolue, justement.
Il nous a bien cramé les oreilles, en tout cas. Merci, Marie. Ben, des raisons de faire de la veille, peut-être, toi qui es le grand Manitou de la méthode.
Moi, tu sais très bien que je vais avoir beaucoup de choses à dire sur le sujet, vu que j'ai commencé en étant journaliste pigiste pour un magazine, un feu magazine de jeux vidéo. Qui n'a pas fait long feu. Les jokes de papa, voilà, ça c'est fait. Non, après la veille, moi je trouve ça super utile. Je continue à en faire tous les jours et ça fait partie des routines de travail. Surtout en plus en ce moment, on est dans une semi-démocratisation des outils de développement du jeu vidéo, donc on peut beaucoup plus facilement y accéder, beaucoup plus facilement faire des jeux, et donc il y a beaucoup plus de projets et beaucoup plus de jeux qui sortent. L'industrie se porte bien, majoritairement bien, même s'il y a des problèmes, on pourra en parler dans d'autres émissions, mais globalement il y a beaucoup de jeux, et donc avoir un œil sur ce qui se passe, c'est utile déjà dans mon boulot, et c'est utile pour nous de savoir ce qui se passe et contre quoi on risque de sortir. Rien que faire de la veille sur le local, rien que savoir ce qui va sortir ici sur les projets, nous ici installés à Montpellier, mais de savoir ce sur quoi travaillent des autres, c'est intéressant. Savoir comment ils communiquent, savoir quelles sont leurs dates de sortie et toutes ces informations là qu'on pourrait pas avoir. Et plutôt que de le faire de manière condensée en se disant je vais sortir un platformer, vas-y, faut que je vois tout ce qui va sortir dans les 6 prochains mois en platformer, autant se mettre des routines de travail, commencer à le faire un peu tous les jours et avoir cette petite habitude à prendre qui permet de gagner du temps après dans nos réflexions et dans notre vision stratégique du planning de sortie d'un jeu. Après, on peut revenir sur les méthodes ensuite. Je ne sais pas sur quoi tu veux t'axer maintenant, mais...
Je voulais juste avant revenir sur ce que disaient alors Marie et ou Guillain, je ne sais plus. Mais effectivement, pour revenir sur l'aspect, c'était Marie qui parlait de la veille technologique, le jeu vidéo étant une industrie forte dimension technologique, elle est en perpétuelle évolution. Et du coup, c'est évidemment nécessaire de se renseigner sur le hardware, tout autant que sur le software finalement. Et parce que en tant que développeur, on ne fait que utiliser des logiciels qui sont constamment mis à jour, et parfois certains d'entre eux peuvent nous passer à côté. On peut soit, bon, souvent quand on utilise un logiciel et qu'il se met à jour, bon bah si on continue de l'utiliser, on sait ce qui se passe dessus. Mais si on n'utilise pas un autre logiciel qui est rival, on va le dire comme ça, mais lui aussi étant constamment mis à jour, et ben parfois on peut se rendre compte que on n'utilise plus le meilleur logiciel du moment. Et donc, c'est important, effectivement, de savoir continuellement ce qui se passe sur les outils que l'on utilise.
Ça m'est arrivé plusieurs fois d'utiliser des logiciels en pensant que c'était les meilleurs sur le moment. De chercher des logiciels pendant des heures en me disant « Ah, il n'y a pas cette fonctionnalité. » Et au final, si je m'étais renseigné suffisamment au fur et à mesure, je n'aurais pas cherché des heures et j'aurais su directement quel logiciel utiliser pour, par exemple, mon animation.
Après, il faut quand même penser à un truc, c'est que quand vous cherchez des logiciels, pour passer d'un logiciel à un autre, il faut qu'il y ait un réel écart technologique ou un réel écart de process qui vous donne un bon avantage si vous changez de logiciel. Parce que la plupart du temps, vous êtes habitué à un logiciel, vous allez connaître un petit peu et vous allez être efficace sur celui-ci. Alors, pour passer à un nouveau que vous avez découvert il n'y a pas longtemps, il faut vraiment que, pour moi, que ça donne un écart qui soit suffisant pour justement justifier le passage.
Alors, je pense qu'on peut nuancer ce que tu dis, c'est vrai, mais je pense que ça peut nuancer en fonction de l'importance de ce logiciel dans ta production. C'est sûr que changer de moteur en cours de route, là, par contre, ça va demander un investissement relativement colossal en temps de travail. Déjà que c'est compliqué entre les différentes mises à jour de Unity, alors changer complètement de moteur, je n'imagine pas. Après, ça peut être, tu peux prototyper sur Unity et après développer ton jeu sur un autre moteur, mais sur certains logiciels de production, je pense notamment dans les logiciels de graphisme, tu peux tout à fait passer de l'un à l'autre, et des fois le logiciel propose même directement de lire les fichiers de l'autre logiciel et donc de gagner du temps. Je pense notamment aux artistes qui travaillent avec Photoshop ou Procreate. Finalement, de l'un à l'autre, tu peux passer sans trop de changements et sans perdre trop. Après, tu as des habitudes à prendre sur les deux.
C'est sûr,
mais
que,
finalement,
en fait, par rapport à un nouveau logiciel, souvent ils prennent en compte que Photoshop c'est 80-90% du marché et donc ils prévoient la compatibilité avec les points PSD. Mais c'est vrai que ça, c'est des jeux. Au final, ce que tu en ressors, c'est une image. Donc pour la production sur le jeu, tu vois,
tu peux sortir des textures avec
ce que je veux dire, c'est que par rapport à ta production sur ton jeu, c'est pas ça qui va faire un vrai écart en termes de ça va pas être bloquant, si tu veux que tu changes, ça va peut-être mettre un peu plus de temps à reprendre des process pour créer les images, mais c'est pas un facteur critique sur ton jeu. Donc c'est vrai que c'est ce que tu nuançais tout à l'heure, c'est que si tu changes sur un moteur de jeu, là concrètement ça peut poser de réels soucis, alors que changer un logiciel graphique qui sont de toute façon globalement tous conçus pareil, c'est sûr que ça peut être un peu moins important.
En parlant de changement de moteur de jeu, savez-vous que Kingdom Hearts 3, au début, était développé sur le Luminous Engine, qui était le moteur propriétaire de Square Enix, sur lequel a été développé Final Fantasy XV, et suite à des difficultés avec ce moteur-là, finalement, ils ont choisi de porter Kingdom Hearts 3, de redévelopper Kingdom Hearts 3 sur le moteur Unreal Engine 4. Voilà, c'était principalement pour caser Kingdom Hearts. je dois bien l'avouer. qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ok, mais alors, du coup, est-ce qu'il faut se tenir au courant de vraiment tout dans l'industrie du jeu vidéo? C'est vraiment se taper toutes les news qui sortent ou pas?
Bah, moi, personnellement, je pense qu'il y a... Enfin, là, je suppose qu'on va partir sur un peu comment on fait chacun notre veille.
Ouais, tu peux, ouais.
Donc moi personnellement de mon côté, je me renseigne un peu sur tout, mais en fait je me renseigne un peu sur tout parce que je vois passer certaines choses, tu vois. C'est pas où je me, j'ai pas me focaliser en me disant faut que je recherche ça tous les jours dans ma routine. J'ai pas tout le temps me focus en disant bon alors là il y a quel jeu qui est sorti, je vais pas me mettre sur Steam et me faire 3 pages de jeu pour voir qu'est-ce qui est sorti la semaine dernière. Je vais plus me mettre sur certains groupes, par exemple Discord, je vais regarder les partages, je vais regarder les grands événements qui sont arrivés, notamment en ce moment il y a un peu la guerre des stores où là je commence à m'intéresser pas mal avec la sortie d'Epic, de Discord, qui sort sans store, enfin il y a énormément de stores qui sortent où là je trouve ça intéressant de partir sur une veille. Et moi je me renseigne surtout sur du coup sur les groupes avec les partages que je peux en trouver. Et ça me permet d'être renseigné, on va dire, sur les éléments importants.
Vas-y.
Ah moi je vais être long.
OK.
Vas-y.
Vas-y. moi ce que j'ai fait, c'est que à chaque fois que j'aime bien un jeu, je regarde le studio qui le fait. En général, je sais pas, je le like sur Facebook, je le follow sur Twitter ou sur Instagram. Comme ça, j'ai les news des studios que j'ai bien aimés. Comme j'habite à Montpellier, j'ai pris toutes les news des grands studios de Montpellier. Et après, grâce à Pushstart et au Discord de Pushstart, j'ai des news en temps réel. Donc voilà, c'est principalement ce que je fais.
Après, moi, pour mes méthodes, j'avoue que j'ai beaucoup d'outils en place pour que l'information vienne à moi et que j'ai le moins d'efforts à faire pour aller chercher l'information. Ça va passer simplement par s'inscrire à des newsletters qui vont répertorier le top des jeux Steam qui sont sortis ces dernières semaines. C'est un super outil pour se dire, ah bah tiens, c'est marrant, cette semaine il y a tel gros jeu qui est sorti et en face de ça il y a ce petit jeu indé et qui c'est qui a le plus de commentaires et le plus de reviews. Ah bah tiens, c'est le petit jeu indé. Tiens non. Bref, c'est le genre de veille qui peut être intéressante. Donc après, on peut.
T'as des newsletters,
pourquoi, etc. Ouais, t'as des newsletters qui.
Non, mais justement, tu t'en as certaines à partager.
C'est notamment celle de Eco Partners. Ça s'appelle la Steam Letters, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Et qui, voilà, toutes les semaines, a priori. Après, la newsletter en alpha, donc il y a des fois des petits ratés. Mais globalement, tu peux retrouver voilà ça de manière régulière dans ta boîte mail et qui te dit. Les tops des jeux qui sont sortis sur Steam et après le nombre de commentaires qu'il y a, donc en un petit mail, donc en 30 secondes de vision, tu peux voir quels sont les jeux qui ont le plus performé cette semaine ou ces deux dernières semaines sur Steam et donc d'avoir des informations assez intéressantes quoi.
D'accord, mais juste avec les mails, t'as pas le souci d'être un peu spammé du coup?
Non, parce que je suis bien structuré dans mon organisation de ma boîte mail, donc généralement ça va et puis je trie assez rapidement, je laisse pas le flux trop s'imposer et puis quand je m'inscris à d'autres newsletters qui sont un peu moins importantes, je le mets dans une autre boîte mail que je consulte moins souvent.
Bah du coup ouais, par rapport à ça, tu checks tous les combien on va dire tes newsletters?
Bah les newsletters c'est sous base plutôt on va dire de manière toutes les semaines à peu près quoi. Ça dépend après la sortie de
non mais les newsletters tu dis que ça sort une fois par semaine mais toi tu checks enfin par rapport à tes mails
combien de fois par semaine je check mes mails tous les jours je suis tout le temps dessus
mais après pour que ce soit pour en gros que tu vois passer toutes les news sans te faire flooder par rapport à tes newsletters.
Bah, après ma boîte mail c'est pas mon seul outil de news donc c'est une partie de quelques newsletters mais après J'ai d'autres outils, et je pense notamment aux réseaux sociaux qui me servent beaucoup à faire de la veille. Comme disait Marie, s'abonner au compte Twitter, ça peut être une bonne chose. Moi, j'entretiens plusieurs listes où je suis des gens qui entretiennent des listes ou leurs propres listes de studios de jeux montpelliérains, de studios de jeux français, de studios de jeux indé français, etc. Et donc, ça me permet d'avoir assez rapidement, quand je lance Twitter, d'avoir ça. Enfin, plus précisément TweetDeck pour être plus précis pour les utilisateurs de Twitter qui sont un peu avancés, qui savent ce que c'est TweetDeck. Donc, c'est un outil qui permet d'afficher plusieurs colonnes de Twitter en même temps, ce qui fait un truc assez monstrueux à regarder, mais qui est assez rapide parce que d'un coup d'œil, tu peux voir si tu as des nouveaux messages dans ta boîte mail, tu peux voir quel est le dernier tweet publié par le studio du coin que tu suis, etc. etc. Donc ça te permet de pouvoir afficher plusieurs listes et de un peu mieux affiner la veille et d'un peu mieux affiner les sujets que tu peux voir passer dans Twitter parce que sinon ça, si t'es abonné à beaucoup de comptes ben tu vois beaucoup d'infos. Moi je crois que je suis abonné à 1200 comptes. Si j'avais pas ces listes derrière, en fait je regarde quasiment jamais le flux Twitter de base, j'utilise quasiment que TweetDeck et via les listes j'arrive à me à me faire un flux un peu digeste de d'informations, donc de veille. Après, ben, toujours par rapport au mail, il y a les alertes Google qui sont assez pratiques sur des sujets un peu précis. Je sais que ben, en étant président de Pushstart, c'est assez facile d'avoir des infos, parce que dès qu'il y a un truc qui est publié sur Google, ben, Google il m'envoie un petit mail en disant « Eh tiens, regarde, il y a ces tels mots-clés qui sont ressortis dans ton article ces derniers temps, donc tu peux paramétrer à quelle fréquence tu veux ces alertes-là. » Donc moi, sous base hebdomadaire, souvent je reçois des résumés de différents articles qui sont sortis sur le thème jeux vidéo Montpellier, par exemple. Donc sur des thématiques très précises, je peux raffiner ces choses-là.
Et juste et puis, avant que tu continues un peu ouais. là-dessus, je voulais juste revenir par rapport à Twitter Deck là. En fait, est-ce que je suis novice Twitter, j'utilise pas tant que ça. Mm-hmm. Est-ce que si on te suit par exemple, on peut retrouver ces listes-là pour nous-mêmes en fait les suivre.
Alors, tu peux en avoir certaines qui sont publiées. En fait, ça dépend. Quand tu crées une liste sur Twitter, tu peux soit la mettre en ligne, soit la cacher. Moi, la plupart du temps, je les cache parce que je veux être un peu privé sur ma façon de traiter les gens, en fait, pour ne pas les frustrer si je les mets dans certaines listes et qu'ils se rendent compte que je suis dans la liste. Enfin, je les ai mis dans la liste influenceur ou dans la liste moins d'intérêt, tu vois. Je troll, hein, c'est pas du tout le nom des listes que j'ai fait, mais je blague pour l'exemple, mais c'est pas. Enfin, tu vois, j'ai une liste industrie, j'ai une liste studio, j'ai une liste. Donc, ça, je les garde un peu pour moi, mais après, il y a beaucoup de gens qui mettent en public les listes. Moi, par exemple, celle de Montpellier, je l'ai mis en public, donc n'importe qui peut voir ce contenu, et je mets tous les gens qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo à Montpellier, donc y compris que ce soit des influenceurs ou y compris des associations concurrentes ou. D'autres choses qui pourraient, voilà, mais bon, je fais ça de manière j'essaye d'être le plus impartial, c'est ça,
ouais,
possible. Ah ouais. Sur ce genre de choses, parce que pour moi c'est de l'information, c'est pas il y a pas de parti pris à avoir sur ce genre de choses.
D'accord.
Et après c'est fait avec ma connaissance des gens qui sont sur Twitter. Il y en a plein qui doivent pas y être parce que j'ai pas connaissance de leur compte Twitter, mais bon, voilà. Oui, et puis j'allais dire un autre truc, mais je sais plus.
T'étais sur les Google Alert, c'est moi qui t'ai coupé, excuse-moi.
Google Alert, je sais plus. Enfin, j'ai plein d'outils comme ça, et je voulais juste. Voilà, je sais pas s'il y en a certains d'entre nous qui nous écoutent, mais à feu, les anciens journalistes qui utilisaient Google Reader, qui était un lecteur de flux RSS dont on parlait un peu hors antenne tout à l'heure, qui permettait de faire des listes de sites d'actu et d'avoir toutes ces actus comme ça. C'était super pratique à l'époque, et Google a choisi de faire mourir ce super logiciel, et donc du coup on n'a plus ça. Donc il y a plein d'alternatives gratuites ou payantes, mais qui sont pour moi moins bien que ce que Google avait réussi à faire. Et je suis très déçu d'avoir perdu ça, parce que je suis obligé de transformer toute ma veille en réseaux sociaux aujourd'hui. J'avais prévenu que c'était long. On ne regarde pas comme ça, Vincent.
Non, mais il n'y a pas de souci. Moi, je trouve ça super intéressant, tout ce que tu racontes. Après, j'accapare aussi un peu le micro pour te poser des questions, mais du coup, moi, en tant que néophyte, qu'est-ce que c'est qu'un flux RSS ?
Wow, qu'est-ce que c'est qu'un flux RSS ? En gros, c'est pour résumer tout simplement, c'est juste des informations basiques sur les derniers contenus qui sont publiés par un site web. Donc ça te récupère le titre, un extrait du texte et les premières images généralement. Et ça permettait à l'époque notamment d'avoir rapidement des logiciels qui te remettait toutes ces infos-là et qui te permettait de récupérer tout de suite des informations et de les traiter de manière un peu différente. Les podcasts, ça fonctionne énormément avec des flux RSS, par exemple. Tous les logiciels de référencement de podcasts, de pouvoir référencer tous les différents podcasts. Donc si t'as un podcast qui a pas de flux RSS, c'est peut-être difficile d'être hébergé sur les applications diverses et variées de podcasts, quoi.
Ok.
Tu utilises énormément Twitter du coup, Ben, pour faire ta veille. Je me doutais que tu l'utilisais. Je pensais pas que c'était à ce point, en fait. Moi, j'utilise très peu Twitter pour faire ma veille. Enfin, comme Guillain, j'utilise assez peu Twitter, j'ai un compte, mais
parce que t'es mauvais.
Je m'y mettrais un jour.
Ça veut dire que je suis mauvais aussi.
Non, mais ouais, c'est important de se mettre à Twitter. Mais bon, bref. La façon dont moi je pratique ma veille, à une époque, je lisais toutes les news qui sortaient sur jeuxvideo.com et c'était. Enfin, ça marchait plutôt bien pour moi parce que j'avais une vue d'ensemble vraiment de l'industrie de jeux vidéo. Je savais à peu près tous les jeux qui sortent. Alors, Guillain qui me troll. J'avais une vue et Ben qui me prend en photo. Ok. J'avais une vue d'ensemble de l'industrie. J'étais au courant de tous les jeux qui sortaient, etc. ou qui étaient sur le point de sortir. Mais en fait, l'industrie du jeu vidéo a continué de se développer au fil des années. Et il y a de plus en plus de news chaque jour. Il y a de plus en plus de jeux qui sont développés. Alors à une époque où je sais pas lire une journée de news, ça me prenait une demi-heure parce que c'était étalé sur une seule page jeuxvideo.com pour reprendre cet exemple puisque c'était le mien. Maintenant sur jeuxvideo.com, si vous voulez faire toutes les news de la journée, souvent c'est étalé sur deux pages, voire parfois sur deux pages et demie.
C'est ça, tu dois te sentir complètement floodé.
Oh, bah c'est ça. Donc ça, j'ai en fait, je suis découragé. Maintenant, ça fait quelques années que j'ai arrêté de faire ça parce que en plus je suis pas un très grand lecteur, lire c'est pas ce qui me stimule le plus dans la vie, ça tend à m'ennuyer assez vite. Donc j'ai commencé à m'orienter vers des solutions beaucoup plus faciles.
Je demande à Ben ce qui se passe et il me résume les choses.
Aussi. Non. Pour rester sur jeuxvideo.com, premier exemple, ils ont une chronique qui s'appelle Pause Café, dans laquelle ils reviennent sur trois news importantes de la journée, sur une vidéo qui dure 3 minutes, et donc chaque jour de la semaine, ils sortent leur nouvel épisode de Pause Café, donc ça me permet d'être au courant déjà de trois news majeures au quotidien, avec une vidéo courte, mais il y a également les podcasts dont je me sers pas mal aussi pour me tenir au courant. Il y a notamment l'émission La Revue de Presse JV, qui est dirigé par Bruno, qui est une création de Bruno Roca, qui est un ancien rédacteur pour le magazine IG que je respecte beaucoup, qui était vraiment un excellent magazine, et Bruno qui maintenant d'ailleurs est game designer, bref. Et donc La Revue de Presse JV, qu'est-ce que c'est? C'est une émission qui dure entre 10 et 15 minutes et qui est quotidienne également, et donc voilà, chaque matin j'écoute en allant travailler les news de la veille. Il y a également le Rendez-vous Jeu, ou bien Pixels, qui est son équivalent en anglais, qui tous deux sont des podcasts, des émissions de Patrick Béja. Ce sont des émissions qui durent entre 1 et 2 heures, et où c'est Patrick Béja et des invités, un ou deux généralement, qui du coup reviennent sur les news. C'est des émissions bimensuelles, donc toutes les 2 semaines, donc ils reviennent sur les news entre chaque émission. Et j'ai tendance à écouter, j'ai tendance à écouter Pixels. Non, c'est pas vrai. À la base, j'ai écouté le Rendez-vous Jeu parce que voilà, c'est bien, c'est en français, c'est simple à écouter. Mais justement, pour travailler mon anglais, je me suis dit, bah du coup on fait d'une paire de coups, je me suis mis à écouter Pixels et à me forcer à n'écouter que Pixels. Sauf que pour écouter un podcast qui est uniquement en anglais, il faut quand même être, je sais pas, avoir
t'as
de l'énergie.
T'as un peu trop de langage technique aussi dans les jeux vidéo peut-être.
Non, c'est pas un souci, non, parce qu'en plus comme Patrick Béja, en dépit de son accent anglais qui fait illusion, il a quand même c'est quand même un français à la base, donc on comprend relativement facilement ce qu'il raconte en anglais. Mais qu'est-ce que je veux dire?
Vu que tu l'écoutes en faisant autre chose, peut-être que t'es pas assez concentré.
C'est ça, exactement. Je ne peux en fait écouter Pixel que si je ne fais que écouter Pixel et si j'ai de l'énergie. Genre, si je peux pas écouter ça le matin dans le train parce que je m'endors, et je peux pas écouter ça en faisant la vaisselle. Mais voilà, donc vous avez ces solutions-là. Ouais, en plus. Vous avez ces solutions-là. Vous avez également vous pouvez vous tenir au courant un petit peu de ce qui se passe en suivant Metacritic, en regardant les jeux qui sont dans le top Metacritic. Ça vous donne un petit peu une idée des tendances aussi du marché.
C'est un peu un truc d'élitisme Metacritic, non?
Des tendances critiques, on va préciser quand même.
Ouais, c'est particulier Metacritic.
Vas-y, développe.
C'est pas un, je crois pas, il me semble pas que c'est un avis global, c'est un avis de gens.
C'est un agrégateur de scores, du coup ça te prend plusieurs tests, plusieurs notes qui sont parues dans la presse américaine majoritairement, des tests de jeux, et du coup ça te fait une moyenne sur 100. Et puis, du coup, ça te les classe par ordre
de
la meilleure note.
D'accord, je croyais que c'était des gens qui notaient spécifiquement.
Alors, il ne faut pas confondre métacritique et sens critique.
Ah putain, c'est ça.
Sur métacritique, tu as également des notes d'utilisateurs, mais bon, on s'en fout, c'est pas ça qui référence vraiment le truc, c'est surtout les notes de la presse, il me semble. En tout cas, moi, c'est les notes de la presse que je vois et pas tant celles des utilisateurs. Mais oui, sens critique, par contre, c'est effectivement la note des utilisateurs. Mais sens critique, c'est aussi intéressant. Alors effectivement, je ne me fie pas vraiment aux notes que je vois sur sens critique, mais c'est intéressant aussi toujours pour voir les tendances qui se dessinent, ce que les gens plébiscitent actuellement. Et les listes de sens critique sont quand même très très intéressantes pour se tenir au courant. C'est vrai. Ouais.
Pour faire une petite parenthèse sur Metacritic. Ce qui était problématique surtout, c'est le fait que ça agrège des notes et qu'il y ait des récompenses souvent attribuées aux équipes de développement en fonction des notes que reçoivent les jeux sur Metacritic. Donc typiquement, je me rappelle, c'était Obsidian, notamment l'affaire qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, c'était sur le Fallout qu'ils avaient développé, New Vegas, c'est ça. Ils avaient fait un score de 84. Et il devait faire un score de 85 pour avoir une prime de 1 million pour le succès du financement d'Steam du jeu. Et du coup, ils l'ont raté à un point près. Donc ça veut dire, ça se trouve, un mec qui a mis 98 au lieu de mettre... enfin, qui a mis 95 au lieu de mettre 100. Une pondération comme ça des notes qui est un peu, parfois peut-être un peu problématique. Donc c'est
tu veux dire que quelqu'un devrait vérifier
En fait, il n'y a pas de filtre sur ça, donc des fois ça peut être un peu problématique sur les titres qui sont choisis, etc. Et l'importance que ça peut accorder derrière. Donc le problème, c'est que ça peut faire ce genre de choses, alors que New Vegas est quand même un des Fallout les plus publicités par l'ensemble de l'industrie des joueurs, on va dire, même s'il y a des critiques, hein, mais il n'empêche que refuser une prime au studio qui a plutôt bien travaillé sur ce studio, enfin sur ce jeu-là, pour un point métacritique, ça peut générer des frustrations assez importantes. Et je pense que c'était pour ça que tu tiquais sur Metacritic, je pense. Là, je voulais juste faire une petite parenthèse.
Après, on peut faire une émission entière sur la note.
On peut faire une émission entière sur Metacritic aussi. Il y a des choses énormes à dire sur ce site, mais bon.
Après, simplement, ouais, faut rebondir que ça reste quand même de la note presse qui est plus ou moins objective selon les cas.
Wow, après, moi, je suis pour être un ancien de la profession, je suis plutôt sensible aux notes qu'elle attribue la presse. Je suis plutôt d'accord avec elle globalement. Je peux comprendre.
Plus avec une appréciation qu'une note, tu vois. C'est plus dans l'idée globale.
Après le processus de notes, je peux comprendre que ça puisse faire débat, mais c'est surtout même moi, je suis pas certain qu'une note ça serve vraiment à grand chose, mais il n'empêche que je suis pas de ceux qui critiquent la presse parce que jeuxvideo.com a mis 18 et que, mon dieu, ils sont achetés, enfin tout ce qu'on peut lire assez facilement. Je veux dire, je connais les personnes qui travaillent derrière, je connais leur sérieux, je sais que c'est pas forcément la question de ça. Ce qui est plus problématique avec Metacritic, c'est plus le côté on met un blogueur au milieu et puis hop, la note elle descend, alors que le mec, oui, pour le coup, lui, il a pas le recul que peut avoir un journaliste dont c'est le métier. Enfin, tu vois, il y a des problèmes un peu de cet ordre-là, et je sais pas, je suis pas très très fan de Metacritic, j'avoue.
Bref. Marie, tu disais que, ouais, toi, tu te sers principalement aussi des réseaux sociaux pour te tenir au courant de l'actualité. Donc, en fait, c'est les autres personnes qui t'informent. Donc, j'imagine aussi, enfin, c'est principalement le networking qui t'aide, quoi.
Ouais, en fait, finalement, je sais que j'en apprends beaucoup plus en parlant aux gens, à mes potes, qui comme Ben, en fait, qui s'informent vachement. Je parle de tout ça avec eux et ça me tient pas mal informée. Je sais que j'ai jamais été vraiment à la ramasse dans une discussion en me disant « Putain, mais je comprends pas de quoi ils parlent !» Parce qu'au final, en suivant les réseaux sociaux, Twitter, Discord, en parlant à mes potes qui sont dans le jeu vidéo, j'arrive à avoir des informations assez globales sur l'industrie. Après, je pense que quand on fait des métiers comme Ben, il faut avoir des informations plus spécifiques. Mais après, quand j'ai besoin d'informations spécifiques sur un domaine, là, je fais tout d'un coup. Ce que j'ai fait pour la réalité augmentée ou pour les serious games, j'ai tout fait d'un coup, j'ai revu tous les articles d'un coup, pendant une semaine j'ai fait ça, et c'est comme ça que je fonctionne. Je sais que c'est pas la bonne technique, Mais en tout cas, c'est la mienne.
Bon, ça t'a pas trop mal réussi, on dirait.
Ça va, on s'en sort bien.
Ouais. Guillain, toi, tu utilises du coup les Discord et les chaînes YouTube.
Moi,
aussi,
bah, du coup, j'ai pas. Enfin, ça, on en a parlé en off, du coup, je l'ai pas dit tout à l'heure. Mais ouais, moi, j'utilise principalement en fait tout ce qui va me servir à condenser et synthétiser l'information. Donc, en gros, tout ce qui va être les groupes Discord qui vont permettre de partager certaines informations. Ou en disant bah, y a tel truc qui sort, et en fait simplement la réputation, rien que les partages en fait, ça permet d'isoler certaines informations qui sont plus pertinentes que d'autres. On peut avoir des flots d'articles incessants, mais les gens qui partagent en fait, ça va souvent être des informations qui vont ressortir du lot. Mm. Et du coup d'être sur des groupes Discord, même en fait de parler avec des gens du milieu, c'est ce qui va ressortir, c'est les informations importantes. Donc tant qu'on est dans des groupes ou dans un réseau de personnes qui ont qui sont en lien avec l'industrie du jeu vidéo, en fait on va avoir quoi qu'il arrive les informations qui vont ressortir. Après moi aussi justement je me renseigne justement sur YouTube où il y a pas mal de chaînes qui permettent de synthétiser des informations qui soient spécifiques ou plus générales. Par exemple en sortie de jeux vidéo, moi je suis pas mal celle d'elle de Indie Mag qui permet de savoir les sorties des jeux indés de façon très, enfin tous les jours je crois qu'il fait une nouvelle vidéo quasiment sur un jeu, et ça permet de se renseigner là-dessus. Après sur tout ce qui va être un peu plus poussé sur l'industrie, j'aime bien voir des chaînes un peu d'analyse comme pourrait être justement Game Spectrum où on a fait une émission avec lui que vous pourrez retrouver du coup sur Radio Kawa, ou d'autres chaînes YouTube qui permettent justement toute cette analyse un peu plus fine, on va dire, de l'industrie du JV.
Mmh. Ouais, je le fais aussi un petit peu. Enfin, je le fais moins que Ben et probablement moins que Marie aussi, j'ai l'impression. Mais je suis aussi abonné à quelques personnes qui, comme tu le dis, effectivement, font ressortir des informations pertinentes. Et le truc, c'est que en plus, du coup, si tu likes, enfin, si tu découvres une information à travers les réseaux sociaux, que tu likes le post et que tu commences à discuter avec la personne, en plus du coup tu travailles ton réseau en même temps que tu t'informes, donc quelque part tu fais d'une pierre deux coups, ce qui peut être pas mal aussi finalement de juste laisser l'information arriver à soi plutôt que d'aller la chercher, même si rien ne vous empêche une fois que vous avez l'information d'aller discuter avec des gens, ça marche tout à fait aussi.
Après globalement ce qui est important, comme je disais, ça ressort hein. Par exemple, pour moi, la vraie info importante du moment, c'est la petite guerre des stores. Et j'ai envie d'en parler.
Après, on en a un peu parlé, mais tu l'as dit toi-même, c'est la presse. Après, ça reste le meilleur moyen de s'informer sur ce qui se passe. Hein. Globalement, lire Canard PC, lire les magazines de jeux vidéo, ils ont une partie news avant. Tu vois toutes les sorties qui sont sorties. Là, ils sont passés en mode mensuel, mais toutes les dernières sorties, les plus ou moins les tests. Après, bon, toutes. La majorité des gros jeux y sont, voire même des fois des jeux qui sont pas forcément très connus du grand public y sont aussi. Enfin, il y a quand même moyen de s'informer juste en faisant un peu le tour des différents sites d'actu, que ce soit, tu citais jeuxvideo.com tout à l'heure, mais enfin Gamekult, ils ont quand même une partie news qui est loin d'être dégueulasse. Jarod qui fait beaucoup de choses dessus. Après t'as des, je pense notamment, moi j'aime beaucoup le style un peu naufragien slash factor news, donc le style un peu brut de décoffrage où t'as les gens qui vont pas hésiter à tracher certains styles de jeu ou certaines personnes pour faire rire l'audimat, on va dire. Mais voilà, ça permet de, généralement ces sites là qui sont plutôt faits soit par des bénévoles soit par des journalistes ou des aspirants journalistes sont assez souvent centrés sur les thématiques qui sont importantes en ce moment ou qui jugent importantes, donc ça donne toujours un insight, une vision de ce qui est important pour les joueurs ou pour les autres gens qui sont hors de l'industrie, et de voir que ben, beaucoup de gens parlent toujours de Star Citizen, de Overwatch, de ces jeux-là, ça donne toujours des infos sur les différentes pratiques et les sujets d'actualité. Il suffit après de faire un tour dans les commentaires pour voir si ça marche ou pas. Donc enfin bref, il y a plein de techniques. Après là je parle surtout de ce qui est actu, pas forcément industrie. Tu citais tout à l'heure Gamasutra, c'est une bonne source aussi. C'est une des sources professionnelles du milieu. Après pour ce qui est du professionnel, il y a LinkedIn aussi. Pour ceux qui suivent des gens ou qui suivent des boîtes, c'est pas que un réseau social pour trouver du boulot, on peut y trouver beaucoup d'informations aussi, quoi.
Après, juste pour rebondir sur Gamasutra, vous pouvez vraiment trouver plein d'articles qui vont pouvoir vous servir dans le développement, que ce soit des analyses de features de gameplay, que ce soit des façons de travailler son business, des post-mortem aussi sur des jeux. Mm-hmm. Il y a vraiment plein d'articles, c'est super complet. Ouais, les communiqués presse, c'est super super complet. Par contre, après, moi qui parle pas super bien anglais, le site est uniquement en anglais. Donc ça, faut s'accrocher, mais honnêtement, ça vaut le coup d'apprendre anglais rien que pour ce site.
Oui, il y en a plein d'autres. Après, sur des thématiques du graphisme, il y a, comment on dit en anglais, 80 level, j'ai plus le mot. IT level, IT, je crois, ouais, que c'est IT level, le site. Voilà, c'est des ressources de graphisme qui sont pas mal poussées avec des tutos, etc. C'est super intéressant d'aller explorer ce genre de choses aussi. Si
après,
dans le
genre, on peut. Moi, il y a Pixel Prospector que je connais,
ouais,
qui est pas mal.
C'est pas mal.
C'est un peu plus orienté du coup indé. Mm-mm. Mais ça permet de trouver quand même pas mal de ressources, que ce soit graphique, moteur de jeu, idées, enfin pareil,
après,
tous les outils, etc.
Vous vous moquez de moi sur la veille en disant que je suis un gros ouf, mais je vous invite à aller lire le compte Twitter de NetSabes, de Canard PC, enfin d'anciennement Canard PC, qui est nouvellement montpelliérain, et lui il a vraiment des outils en place encore plus ouf que ce que j'ai mis en place. Notamment ces flux RSS, lui, je sais pas s'il a redéveloppé à la main ou un truc, mais en tout cas, il a un outil qui lui permet d'avoir encore toujours plein d'actu. Il a un peu la réputation dans l'industrie de publier l'information sur votre nouveau trailer qui va sortir avant que vous ayez le temps de publier vous-même le nouveau trailer qui va sortir.
C'est un peu ça, c'est un peu ça. Comme certains outils d'analyse, parce qu'en faisant mes recherches, tu as parlé des Google Alerts tout à l'heure. Mm-hmm. Mais du coup, tu as des outils qui sont orientés pour des entreprises qui sont là pour checker, on va dire, ton image de marque, mm-hmm, pour regarder les réseaux sociaux. Et enfin, moi j'en cite deux là que j'ai trouvé comme ça, c'est qui font de l'analyse de big data, donc Talkwalker ou VisiBrain. Mais bon, mm-hmm, on a la facture qui commence à 6 000 € par an, donc c'est pas des outils accessibles à tout le monde. Mais je pense que quand tu pèses un peu dans le game, tu commences à arriver à avoir des outils équivalents.
Après, soit si t'as beaucoup de tu pèses dans le game, tu peux limite te faire tes propres outils, parce que c'est assez facile d'avoir, voilà. Après, une recherche Google, ça aide déjà beaucoup, hein. Enfin, quand t'as pas de moyens et que tu veux voir ta visibilité ou la visibilité de quelqu'un d'autre, tu peux aller assez vite voir les actualités. Même le petit bouton actualité dans Google, il sert, hein.
Mmh. Et après, même Google, il permet aussi de chercher à quel point une recherche est faite sur
ouais,
son moteur.
Justement, c'était un des trucs dont je voulais parler. C'est Google Trends,
ouais,
comme ça, qui permet de voir, voilà, les tendances. Après, c'est très généraliste, mais après, tu peux comparer des mots-clés.
Tu peux comparer les recherches, oui.
Ouais. Donc, vous pouvez comparer Call of Duty versus Battlefield et voir
Fortnite
qui est le plus recherché.
Ouais. À mon avis,
c'est super intéressant. Ça peut même vous dire dans quel pays et tout. C'est un super outil marketing, mais bon, là, c'est vrai que on rentre dans des outils de veille qui sont quand même plutôt,
ouais,
plutôt
c'est plus
avancés,
orienté.
Voilà.
Ouais.
C'est des outils de veille que moi je vais utiliser, mais que après ils sont un peu plus, un peu moins intéressants pour des gens qui ne sont pas forcément.
Ouais, c'est vrai qu'on part un peu sur du SEO, ce genre de pratique en fait. Là, presque.
Oui, sans aller jusque là, mais oui.
Franchement, quand tu commences à checker pour tes mots clés pour faire tes recherches, t'arrives presque sur du SEO.
Presque.
Voilà. On a perdu Vincent et Marie.
Moi je
t'écoute,
hein.
Non, mais moi aussi. C'est vrai que Google Trends, j'avais pas pensé, mais effectivement, lors de mes cours de web marketing, j'avais trouvé ça très marrant. Et j'y repenserai. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter sur le sujet?
Ouais, moi j'avais simplement. On a parlé beaucoup de veille d'actu jeux vidéo, mais on n'a pas parlé qu'on pouvait faire de la veille pour les offres d'emploi. Donc ça, je me suis dit que ça pouvait être un thème de veille. Donc simplement, on a parlé de Google Alert, on peut faire des alertes pour, par exemple, si on cherche un job dans telle ou telle boîte, mm-hmm, qui permet d'être alerté par mail dès qu'un poste se libère en soi.
Pour ça, il y a l'AFJV qui donne des news de ce qui est disponible dans le jeu vidéo toutes les semaines. Ça regroupe pratiquement toutes les offres d'emploi qu'on peut avoir en France, en tout cas.
Il y a d'ailleurs une newsletter, donc vous pouvez vous abonner.
Des Discord très bien, notamment le Discord de Pushstart qui recense beaucoup d'offres d'emploi.
Vous allez dans le channel Job et Stage et vous allez trouver toutes les informations nécessaires.
Après, sur l'emploi, il y a Indeed aussi, pour si vous cherchez en dehors de France, qui recense pas mal d'offres d'emploi, donc des grosses boîtes qui sont installées aux États-Unis ou au Canada. Si vous cherchez des offres d'emploi, voilà, il y en a plein. Hein, je cite celui-là parce que je sais que fut un temps j'y étais abonné. Mais il y a plein d'autres, hein, si vous cherchez, voilà, ils peuvent vous faire des générations automatiques de mails en fonction des postes que vous recherchez, etc. C'est assez avancé. Ça peut être super intéressant si vous cherchez du boulot, effectivement. Quoi.
Du coup, juste, je vais dire les certains sites que j'avais trouvés. J'avais trouvé gamingjob.fr, donc pour des emplois français. Donc il y a l'emploi de la FJV, pareil en France. Game Job Hunter, qui est plus axé sur international, particulièrement aux États-Unis. Et Game Dev Map, qui permet de recenser tous les studios en fonction de leur localisation. Donc ça peut être sympa pour certains qui veulent trouver du boulot à l'étranger, mais qui ne savent pas forcément quels studios sont à quel endroit. Donc voilà, Game Dev Map.
Dernier petit mot, parce qu'on a parlé, je continue d'élargir la thématique. Non mais après c'est bien on parle exclusivement jeux vidéo pour l'instant, mais de faire de la veille sur d'autres industries, d'autres choses qui se passent en dehors du jeu vidéo, que ce soit le cinéma d'animation, le cinéma tout court, la musique, le livre. Enfin, c'est aussi des sources d'inspiration qui sont importantes pour le jeu vidéo, et donc de sortir de ce cadre du jeu vidéo, c'est bien aussi. Voilà, c'était mon petit mot de la fin, et maintenant je te laisse parler.
Oui, non, mais tu fais bien de le dire, parce qu'effectivement, quand on travaille dans l'industrie du jeu vidéo, alors surtout qu'on a un poste créatif, c'est bien de se tenir au courant de ce qui se passe dans les autres industries. Mais je voulais également rebondir sur la recherche d'emploi. Là aussi, en fait, l'une des meilleures façons d'être au courant des offres qui sont publiées avant même qu'elles soient publiées, c'est votre réseau, c'est donc voilà, de connaître des gens et de développer des relations avec eux.
Mais tu vas et tu vas bientôt nous en parler dans ta future vidéo de l'étudiant juré sur le networking.
On arrive à l'autopromo. ok, ben je pense que c'est une émission plus courte que d'habitude, mais bon, on va pas continuer à parler pour le plaisir de gagner du temps. Du coup, avant de se quitter, est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager ?
La Global Game Jam organisée par Pushtart, pardon. On a renommé l'assaut. Non, la Global Game Jam organisée par Pushtart se déroulera donc le 25, 26 et 27 janvier à l'espace Cap de Ville, tout proche d'Odysseum. Grâce à Paul Valéry, qui est notre partenaire, on a le droit à. Et Pushtart qui finance aussi. Et la région Occitanie, on est beaucoup sur le projet. Vous aurez le droit à des petits déjeuners et deux repas et un cocktail d'ouverture. Donc je vous conseille vraiment de venir. Si vous êtes adhérent Pushtart, vous avez le droit à 5 euros de réduction. Et si vous êtes étudiant à Paul Valéry aussi, venez nombreux, on vous attend.
Eh bien moi j'ai déjà pris mon inscription. Je me suis déjà inscrit.
T'inquiète pas, on est deux, on pourra faire notre équipe.
Carrément. Mais d'ailleurs, que vous soyez, si vous n'êtes pas à Montpellier, allez à la Global Game Jam qui est organisée près de chez vous. C'est partout dans le monde, dans plusieurs villes de France. Donc,
Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, si vous écoutez l'émission avant et qu'elle est sortie avant que la Global Game Jam soit là, et si vous écoutez Devendry Trail, venez nous voir et dites j'ai écouté l'émission et j'aimerais bien faire partie de votre team, parce que pour l'instant, avec Vincent, on n'est que deux.
Et donc alors non, ouais, je t'ai pas tenu au courant, mais en fait on n'est pas deux.
On n'est pas que deux. Wow, j'apprends en direct. Ouais. Et du coup, en tout cas, venez, parce que je pense qu'on aura besoin de monde pour l'équipe. Et, voilà. De toute façon, ça sera coupé au montage si jamais. Voilà.
Ok. Vas-y. Tiens, pendant que tu as le micro, est-ce que tu as quelque chose à partager ?
Moi simplement, donc comme j'ai dit, je vais bientôt me lancer sur YouTube. J'ai pas encore trouvé de nom de chaîne.
C'est compliqué ça.
Mais du coup, si vous voulez commencer à vous abonner à une chaîne qui est plus ou moins fantôme, il doit y avoir des vieux trucs en pixel art que j'ai fait quand j'étais au lycée. Donc vous tapez Create My Words sur YouTube et vous devrez trouver une chaîne où il y a 3-4 abonnés pour l'instant. Donc si vous voulez me faire une petite communauté en attendant le départ du lancement, voilà.
Et quand il va voir les banquiers, c'est pareil, donnez-moi l'argent, je vois. Ben.
J'ai pas grand chose à dire, c'est que si vous voulez être tenu au courant du projet dont j'ai parlé tout à l'heure, suivez les gens derrière. Donc je vous laisse deviner le développeur en question, hein, je pense. Voilà, il est assez facile à trouver avec les indices. Vous nous envoyez un petit message si vous n'avez pas trouvé.
Ça commence par un R.
Et sinon, bah voilà, abonnez-vous au compte Twitter de Ben Dimanche. Je me fais mon auto-promo à moi-même. Voilà, tu vois. Voilà.
Il s'éloigne du micro.
Quant à moi, je suis à fond sur la préparation de la prochaine émission de l'étudiant JV, qui sera donc sur le networking. Vraiment, mon objectif, c'est que ça sorte avant la Global Game Jam, parce que pendant la Global Game Jam, je vais mourir, et après, j'ai Kingdom Hearts 3.
On va mourir.
Voilà. Voilà, donc...
C'est simple, quand Kingdom Hearts 3 sort, on ne voit plus Vincent.
Non, non.
Il n'existe plus, donc il n'y aura plus d'émission pendant...
6 mois.
Non, 6 mois, non, t'es gentil, il aura fini 3 fois avant quand même.
Non mais bon voilà, effectivement, non mais tu le crois, mais en fait j'avais prévu de me prendre une semaine de pause où vraiment je sors pas de chez moi, je vis avec des conserves et tout ça avec la sortie du jeu, mais en fait j'ai plein de choses à faire dès le 31, enfin bon
déjà. Non mais en termes de priorité, je suis sûr que ça passe avant.
Ouais mais je suis quelqu'un de trop sérieux malheureusement. Enfin voilà.
Ah, Kingdom Hearts, c'est pas sérieux, il l'aura dit. Il l'aura dit.
Ça sera coupé au montage.
Ah, je serais déçu. Franchement, si je vais réécouter l'émission et je serais déçu si ça y est pas au montage.
Bon, bah du coup, c'est le moment de se dire au revoir. Merci Ben, merci Marie, merci Guillain. Désolé pour les auditeurs, pour les bruits des micros, parce que je suis là avec le casque sur les oreilles, je les entends tout comme vous. C'est assez pénible, mais ça devrait être réglé pour la prochaine émission. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission en écoute et téléchargement sur radiokawa.com, mais aussi sur iTunes, Spotify ou quelle que soit votre application de podcast préférée. Il est possible de nous contacter via les commentaires de la page Devin Retry sur le site de Radio Kawa ou en passant par Facebook et Twitter. Nous vous rappelons que cette émission est une production Radio Kawa et nous vous invitons à souscrire au Patreon pour soutenir la création de podcasts indépendants. Sur ce, je vous dis merci de nous avoir écoutés et prenez soin de vous d'ici le mois prochain. Bye.
Au revoir. Et nous, on va jouer à Towerfall.
Amoureux des jolies vieilles choses, passionnés des pixels et de la 3D mal dégrossie, JB et ses sbires avisés vous accueillent chez Super Retro Mega X, la caverne au trésor d'un passé riche à l'histoire incroyable. Une fois par mois, les archéologues de Radio Kawa débattent sur les fondations du jeu vidéo, accompagnés de temps à autre par des invités émérites.